La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est le moment de découvrir votre solution, Elisabeth Assayag.
Oui, la solution avec vous, Elisabeth, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui à Copine de sortie qui va nous permettre de créer un réseau à la fois professionnel et personnel.
Tout à fait, c'est une application Copine de sortie qui a été lancée il y a 2 ans à l'origine pour les femmes isolées qui n'ont pas forcément un tissu social important ou qui ne travaillent pas ou qui sont à la recherche d'un emploi. Copine de sortie est présente partout en France. Sortir, c'est bien, ça permet de partager des moments conviviaux, mais ça permet aussi de booster l'entrepreneuriat féminin grâce à des sorties comme des cours de yoga, des ateliers de mise en beauté, des cours de langue, du développement personnel, et en se connectant entre elles, la dynamique entrepreneuriale, et ça nous intéresse, est enclenchée. Bonjour Patricia Ruelleux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Copine de sortie. Copine de sortie, tout est parti de votre propre histoire quand vous avez débarqué à Nice.
Ça, hein. Tout à fait. Je rentrais de l'étranger et je souhaitais vivre au bord de la mer, donc en France, à Nice. Et je suis arrivée sans connaître personne. Je n'avais pas d'attache, je n'avais pas encore de travail. Tout était nouveau. Et je me suis retrouvée un soir à aller au restaurant, parce que j'avais très envie d'aller au restaurant. J'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allée seule.
Parce que vous étiez seule, oui.
Tout à fait. Et en fait, ok, c'était déjà bien d'avoir eu ce courage, mais je me suis rendue compte que dans ce restaurant, en fait, j'avais pas du tout envie d'être seule. J'avais envie de faire comme tout le monde, de dîner en fait avec des personnes autour de moi. Et là, ce soir-là, je me dis, mais avec qui j'aimerais en fait dîner ? Avec éventuellement un gars ? Je me dis, ben non.
Ouais, parce que pour ça, il y a des applis.
Exactement, en fait, il y a des milliers d'applications mobiles de rencontres amoureuses. Et je me suis rendu compte ce soir-là qu'il n'y avait pas d'application mobile pour rencontrer des copines.
Et donc là, vous avez créé votre start-up, vous avez quand même une copine puisque vous avez une associée.
Oui, maintenant j'ai plein de copines. Mais effectivement, la première copine qui a vraiment permis d'être décisive sur le lancement de l'application mobile, c'est mon associée, ma première associée, Cécile Macaudière, avec qui en fait on a lancé l'application et déployé cette appli dans la France entière.
Alors comment ça marche ? Il y a des critères pour m'inscrire ?
Alors l'application, elle est ouverte à toutes les femmes de tous les âges, quel que soit son travail, son job, sa situation personnelle, qu'on soit célibataire, en couple ou pas du tout à la recherche d'être en couple, l'application, elle est vraiment ouverte.
Donc quand on s'inscrit, aucun critère.
C'est vraiment totalement inclusif.
Mais alors comment et en quoi êtes-vous différent ? En quoi Copine de sortie, votre application est-elle différente d'un groupe que je trouve sur Facebook ? Moi, je fais partie de plein de groupes sur Facebook. Mm-hmm. Je peux me trouver des copines qui peuvent m'aider aussi à entreprendre, qui peuvent m'aider à établir un projet. En quoi vous êtes différent ?
Alors l'application, elle est différente déjà par l'outil. C'est un outil en fait de proximité. Grâce à la géolocalisation, en fait, vous pouvez voir où que vous soyez la liste des copines près de chez vous que vous pouvez contacter. Après, on a des filtres par centre d'intérêt. Donc, à la différence d'un groupe Facebook où vous devez aller sur vos groupes Facebook pour voir quelle est l'actualité du groupe, sur Copine de sortie, en fait, c'est un petit peu un point d'entrée unique où là, vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez.
Mais par exemple, je vais chatter avec elle ou je vais me dire, tiens, ce soir, j'ai envie d'aller à un cours de danse. Je vais voir ce qui est disponible. Comment j'arrive à connecter avec une et pas une autre ?
Eh bien, en fait, vous entrez sur l'application. On a une fonction de recherche par copine et par centre d'intérêt. Par exemple, vous avez envie de faire du yoga. Vous cliquez sur l'icône yoga et là, s'affichera la liste des copines qui ont, comme vous, envie de faire du yoga. Et là, vous pouvez chatter directement avec elle.
En 2 ans, déjà 50 000 femmes connectées. Il y a eu des grandes histoires, il s'est passé des choses.
Oui,
il y a eu de l'entrepreneuriat.
Il y a eu l'entrepreneuriat. D'abord, plein d'histoires de rencontres amicales, plein de témoignages de femmes qui nous disent « Oh là là, ça m'a sauvé la vie ». Comme moi, il y a plein de filles qui arrivent dans une nouvelle ville, que ce soit à Paris, à Nice, à Montpellier. Pour des raisons professionnelles, on est amené à déménager, à devoir se recréer un réseau. Après, il y a plein d'histoires aussi de ruptures sentimentales. La vie amoureuse se casse la figure. On a besoin de trouver un nouveau réseau. Et il y a plein de femmes qui m'ont raconté « ça m'a sauvé la vie ». Je ne connaissais personne. Ou alors, je me suis séparée de mon copain. D'un coup, je n'avais plus personne autour de moi. Et elles ont essayé d'aller chez les psys, d'aller dans des associations. Et finalement,
c'est l'entraide féminine bienveillante.
C'est tout à fait l'entraide qu'on vise.
Fabrice, notre coach.
Oui, ma question porte sur comment vous faire connaître. Il est important finalement que vous soyez bien référencé, notamment sur les moteurs de recherche. Mm-hmm. Et je ne sais pas, vous classer simplement. En gros, soit vous êtes une app de rencontre, et dans ce cas-là, vous faites face à des mythiques, des Grindr et d'autres. Soit vous êtes une app de sortie, et dans ce cas-là, vous faites face à La Fourchette, Allociné, Billet Réduc. Soit vous êtes une app de réseau social, et dans ce cas-là, j'ai LinkedIn, j'ai Facebook. Donc, je ne sais pas où vous classez. Et pour autant, c'est essentiel pour vous d'être extrêmement bien référencé afin de pouvoir vous trouver facilement.
C'est vrai que finalement, on cumule les trois aspects que vous avez mentionnés, à la fois de la rencontre amicale, mais comme on est la seule en France à proposer de la mise en relation amicale, entre femmes, là, on est vraiment les leaders, donc on va nous trouver facilement. Après, on a une app événementielle, puisqu'effectivement, il y a une liste de sorties qui s'affiche. Les filles proposent des sorties, donc effectivement, on va consulter cette liste très régulièrement. Et ensuite, on a aussi une app pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment
dans
multicanaux.
Ouais, ouais, bien sûr, ouais.
Ça marche aussi si, par exemple, je suis en déplacement dans une ville pour 3, 4, 5 jours et que je ne connais personne, je peux me servir de l'app.
Complètement. Le soir, vous sortez de votre réunion, vous allez à l'hôtel, vous n'avez pas envie de dîner seul. Vous avez tout de suite la liste des filles géolocalisées près de chez vous et vous pouvez les contacter.
Ces connexions, c'est davantage pour sortir ou davantage pour... trouver un emploi, pour essayer de créer des opportunités professionnelles. C'est quoi, en quelle proportion ?
C'est pour tout. On va dire que pour l'instant, on est à 80% de sorties de loisirs, en journée comme en soirée. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien trouver des copines pour faire du yoga, pour aller faire une marche, pour aller au ciné, ou alors sortir le soir. Boire un verre, c'est vrai que ça marche très très bien. C'est quand même le premier vecteur pour rencontrer des personnes en France. Et après, il y a la partie professionnelle. Pas vraiment pour chercher un emploi, c'est plutôt pour lancer son entreprise et faire connaître son activité professionnelle.
Merci.
Ça s'appelle Copine de sortie, c'est la solution. Merci d'être venu nous la présenter.
Merci
aujourd'hui
à vous.
Sur Europe 1.
Europe 1.
Restez avec nous, on s'intéresse à la précarité menstruelle. Si vous aussi vous avez identifié des besoins ou des initiatives, n'hésitez pas, venez nous dire où ça bouge et ce qu'il faut faire bouger. On vous attend. À tout de suite sur Europe 1.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on aime ceux qui osent et qui vont au bout de leurs convictions, de leur engagement, de leurs rêves aussi pour bâtir des projets, faire avancer la société. Vous allez voir que quand on parle de précarité menstruelle, vrai sujet de société, il y a certes encore beaucoup à faire, mais il y a déjà des actions qui sont menées. Bonjour Tara Euser-Sarmini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Règles élémentaires. C'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Et si vous, vous avez décidé de la créer, c'est tout simplement parce que vous avez beaucoup voyagé, notamment en Angleterre, et que vous avez là-bas participé à des collectes pour des produits hygiéniques. Et ça vous a beaucoup choqué à l'époque qu'on soit obligé de faire ça.
Tout à fait. Ça m'a vachement choquée et surtout vachement interpellée parce que je n'avais jamais pensé à ces femmes dans la rue qui devaient gérer leurs règles. Je ne m'étais jamais posé la question de comment elles faisaient, tout simplement. Donc, en revenant en France, j'ai importé l'initiative et j'ai lancé Règles élémentaires en 2015.
Oui, parce que vous vous rendez compte, à votre retour dans l'Hexagone, qu'il n'y a rien finalement qui se fait.
Exactement. D'abord, j'en parle à ma famille, à mes amis. Le constat et le même. Tout le monde me dit « Ah bah ouais, on s'est jamais posé la question ». Et ensuite, j'en parle à des professionnels de santé, idem. Et du coup, je décide d'aller mener une petite enquête de terrain auprès des acteurs clés de la précarité.
SAMU social.
Et voilà, exactement. SAMU social de Paris, différents foyers d'hébergement également. Et là, le constat, toujours le même.
C'est-à-dire zéro stock, rien pour ces femmes.
Rien du tout. Sujet ultra tabou, donc beaucoup trop d'efforts pour beaucoup trop peu de résultats quand ils et elles cherchent à se procurer ce type de produit. Donc ils étaient hyper ouverts à ce que nous, jeunes étudiants à l'époque, on se lance et on fasse cette collecte.
Et c'est ce que vous avez fait. Alors vous commencez en 2015, vous créez l'association en 2016. Vos premières collectes, elles sont un peu portées aussi par la fameuse taxe tampon dont on a beaucoup parlé. Du coup, vous recevez des colis.
Tout à fait. Donc en fait, on a lancé la première collecte fin novembre, début décembre 2015, donc pile au moment du second examen de la loi sur l'abaissement de la TVA sur les produits d'hygiène intime, donc le fameux débat sur la taxe tampon. Et ça a vraiment mis en lumière le coût de ces protections. Et du coup, super accueil très très chaleureux de tout le monde en fait, du grand public, des médias. L'initiative est mise en lumière et on reçoit des colis de la France entière et aussi de l'étranger.
Alors on va continuer à parler de votre initiative, mais je voudrais qu'on s'arrête justement, puisque vous avez prononcé le mot coût, sur le prix. Combien ça coûte, Elisabeth, finalement, à une femme? Est-ce qu'on a une idée du budget?
On a une idée, hein. C'est en moyenne 18 euros par mois, c'est ce qui ressort à chaque fois, sans compter parfois des médicaments antidouleurs ou anti-hémorragiques, parce que certaines femmes ont des flux plus importants que d'autres, parfois Les règles peuvent durer jusqu'à une semaine, donc ce sont beaucoup plus de protections, parfois beaucoup plus de médicaments anti-douleurs, pas forcément totalement remboursés par la Sécurité sociale. Les sous-vêtements aussi, il faut compter les sous-vêtements qui peuvent parfois être abîmés, parce qu'une femme a ses règles en moyenne 500 fois dans une vie, ça équivaut à environ 10 000 protections périodiques, et là aussi c'est un coût pour les plus précaires. Pour les plus précaires qui parfois sont obligés de s'en passer.
Alors vous avez décidé avec Règles élémentaires de monter une plateforme citoyenne, c'est-à-dire que tout un chacun peut participer aujourd'hui ?
Exactement, en quelques clics, en quelques minutes, n'importe qui peut aller sur notre site internet et organiser sa propre collecte. Collecte qui va ensuite être référencée sur notre site internet, sur les réseaux sociaux. Chacun va recevoir des visuels de communication personnalisés, des boîtes à dons également. Et ensuite...
Je mets quoi ? Je mets quelques tampons, quelques serviettes.
Tout à fait.
Ce que je peux donner, finalement.
Ce que vous pouvez donner. Donc, on accepte tout type de produits d'hygiène intime, y compris les protections réutilisables, parce que au-delà de l'aspect environnemental et écologique, c'est un moyen de mettre fin à la dépendance aux dons pour les futures femmes bénéficiaires de ces produits. Et on prend également tout ce qui est lingette et gel hydroalcoolique, voilà, parce que c'est important d'avoir une bonne hygiène menstruelle et donc de se laver les mains typiquement avant d'utiliser ces produits.
Notre coach Fabrice Marcella.
Tara, bravo déjà pour l'initiative. La question que je souhaitais vous poser, moi, c'est quelle était l'épreuve finalement la plus compliquée pour vous pour monter cette association ? Je crois que vous étiez peut-être déjà en poste, en plus, en parallèle en tout cas de la création et du développement de cette association. Comment avez-vous pu gérer tout ça ?
Alors, j'ai en effet lancé Règles élémentaires quand j'étais étudiante et ensuite j'ai poursuivi ma carrière dans la tech. Donc, j'ai toujours fait ça à côté jusqu'à il y a quelques mois où voilà, je me concentre maintenant à plein temps sur l'initiative et cette dynamique géniale qui nous porte. Et le plus dur, ça a été paradoxalement de gérer l'afflux de demandes. On est une toute petite association encore, des 29 bénévoles, une seule salariée et on a fait un gros boulot et du coup beaucoup de demandes entrantes et là on en fait face à un passage à l'échelle conséquent.
Oui, vous collectez et vous redistribuez. Hein.
Alors non, on gère tout, donc on va juste pour vous faire le cheminement rapidement, des organisateurs et des organisatrices de collègues partout en France et même en Belgique maintenant vont organiser des collègues.
Et puis bientôt la
collectes.
Suisse, le Luxembourg, le Canada.
Voilà, tout à fait. Organisent ces collectes. Ensuite, nous, via notre réseau de bénévoles motorisés, on va aller collecter tout ça, centraliser tout ça. Et ensuite, on a noué, ça depuis le début, des partenariats redistributeurs. Donc le premier, historiquement, c'était le SAMU social de Paris. Mais aujourd'hui, c'est la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, et on va redispatcher selon leurs besoins parce qu'on ne voulait pas démultiplier les points de contact pour les femmes dans le besoin.
On parlait du modèle économique hein, en quelque sorte avec Fabrice. Vous êtes aujourd'hui financé en partie. Vous souhaitez lever des fonds et essayer de vous professionnaliser aussi.
Tout à fait. Là, les trois axes pour 2020, c'est vraiment professionnalisation, pérennisation et expansion. Pendant 3 ans et demi, on a vécu des sous en fait et des dons financiers provenant de particuliers, donc tout un chacun qui par le bouche à oreille nous faisait des dons via notre site internet.
Surtout des femmes ?
Pas du tout, non. Ah. On a une vraie mixité et dans notre et pareil à nos événements, hein, nos apéros menstruels, on a à peu près 60% de femmes, 40% d'hommes.
Donc, quand même. Et dans il y a un intérêt de la part des hommes.
Et tout à fait.
Pour lever le tabou.
Exactement. Et surtout des gens qui se sentent vraiment impliqués dans cette question en fait de santé publique et de dignité humaine, tout simplement. Et donc pendant 3 ans et demi, on n'avait que des dons de particuliers, hommes et femmes, et depuis l'année dernière, on a quelques subventions publiques et l'idée cette année, c'est en effet de continuer de lever de l'argent auprès de particuliers, auprès d'entreprises également, afin de pouvoir aussi maintenir notre indépendance et indépendance de parole.
Elisabeth, c'est quoi finalement la définition aujourd'hui de la précarité menstruelle ?
La précarité menstruelle, c'est le manque d'accès aux protections menstruelles, hein, aux tampons, aux protections hygiéniques pour des femmes qui n'ont pas les moyens d'en acheter ou pas suffisamment d'argent. On estime à 1,7 million le nombre de femmes concernées d'après l'association, votre association, Règles élémentaires. Ce sont des travailleuses pauvres, sans abri ou étudiantes. Elles doivent souvent se passer de protection hygiénique. Pour les plus pauvres, ça peut même aller jusqu'à 26 euros par mois le coût. Et si 21%, c'était un sondage IFOP, des filles et des femmes déclarent souvent d'éviter d'aller à l'école ou de sortir par manque de protection menstruelle. D'autres peuvent même parfois aller jusqu'à voler. Parfois, ça peut même être dangereux, comme même garder plusieurs jours ces protections.
On reste ensemble et on continue à parler de cette précarité menstruelle aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h17.
Europe 1.
Et pour pouvoir distribuer des protections, il faut aussi que l'accès soit possible. D'où l'idée bretonne de Marguerite Enco, qui a breveté un distributeur. A tout de suite.
La France Bouge s'intéresse cet après-midi à la précarité menstruelle et aux acteurs français qui se bougent dans ce domaine. On attend vos réactions, vos questions au téléphone 3921. Vous pouvez aussi réagir via Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Et à la grande question quand on parle de précarité menstruelle, c'est comment toucher le public évidemment concerné. Par définition, il est partout, hein, on l'a dit, dans la rue, dans les hôtels, les centres d'hébergement, parfois les familles, les écoles ou les universités. Alors, une solution, c'est évidemment de mettre des points d'accès. Bonjour Gaëlle Lenoine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice de la start-up Marguerite et compagnie. Et alors, vous avez breveté un distributeur de protection gratuite. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça vous vient cette idée? Parce que vous n'êtes pas du tout dans ce secteur-là, vous êtes orthophoniste au départ.
Oui. J'ai été orthophoniste pendant 18 ans en neurologie, en cancérologie. Et en fait, c'est en 2017, quand il y a eu les études sur les tampons, la composition des tampons et des serviettes, ça m'a clairement révoltée. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour que les tampons bio, il existe des tampons 100% bio, 100% biocompostables, dégradables. Et donc, j'ai lancé une box, d'abord, qui était déjà solidaire. C'est-à-dire que la précarité menstruelle, c'était déjà un sujet qui m'inquiétait quand même depuis quelques années. Et quand il y avait des banques alimentaires, je donnais plus particulièrement des tampons et des serviettes plutôt qu'à manger. Et donc, je me suis dit que je lançais une box solidaire. C'est-à-dire que pour chaque box vendue, j'en donne une à une association à Paris, dont je suis mécène, la DSF, qui distribue des kits d'hygiène aux femmes SDF. Après, voilà, cette box commence à bien marcher. Et puis, je me suis dit, Il faut aller plus loin.
Alors, vous parlez de la composition. Je voudrais justement qu'on s'arrête un instant sur cette composition. Qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth? Aujourd'hui, on est capable de dire ce qu'il y a dans les protections hygiéniques?
Les protège-slips et les serviettes hygiéniques sont composés de produits d'origine naturelle dérivés du bois, des produits de nature synthétique de type polyoféline. Ce sont des polyéthylènes et des polypropylènes, ainsi que des super absorbants. Les tampons subissent des traitements chimiques. À la base, ils sont composés de produits dérivés du coton et du bois, mais ils subissent un traitement chimique au cours de la fabrication. Et les coupes menstruelles, elles, sont composées d'élastomères thermoplastiques ou de silicone de qualité médicale. L'ANSES a publié les résultats de son expertise de 2018 sur la sécurité des protections intimes internes. Et ces essais ont révélé la présence de substances chimiques dans les tampons, dans les coupes menstruelles, mais sans dépassement des seuils sanitaires.
C'est la raison pour laquelle, Gaëlle, vous avez souhaité vous saisir de ce problème en créant donc ce distributeur avec à l'intérieur des protections qui sont 100% coton bio, zéro chlore, zéro parfum, zéro plastique.
Voilà. J'ai un contrat d'exclusivité avec le leader mondial qui est Natracare. Je leur ai proposé le projet. Ils ont été séduits parce qu'on avait les mêmes valeurs, la même éthique. Et donc, j'ai un contrat d'exclusivité avec eux. C'est la
Natracare
seule marque.
Qui est anglais.
Oui, ils sont basés à Bristol.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Français qui font ça aujourd'hui.
Il n'y a pas de Français. Il n'y a pas de Français. Et c'est la seule marque qui fasse vraiment du 100% bio et zéro plastique aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le voile de polyester autour. Ils ont une technologie. C'était les premiers en 90. Suzy Hewson a eu l'idée de fabriquer les tampons et des serviettes bio. Donc voilà, ils ont développé une technologie hors pair qui leur permet de faire avec uniquement du coton et de la cellulose sans rien d'autre.
Alors, il y a ce qu'il y a à l'intérieur de votre distributeur et puis il y a l'idée du distributeur.
Oui.
Comment est-ce que vous avez fait pour l'imaginer, pour le concevoir et puis pour faire la démarche d'aller le mettre dans les écoles, dans les universités?
Alors, je suis passée par beaucoup de dessins. Je crayonnais beaucoup. Beaucoup d'essais avec des protos en bois, en carton, pour trouver la pente, pour trouver le système, pour qu'il n'y ait aucun mécanisme, que ce soit le plus simple possible. En fait, il n'y a pas besoin de mettre de tech, hein, c'est très, très simple. Et donc, ce que j'ai breveté, c'est notamment le système de recharge qui se glisse
dedans.
C'est-à-dire
que c'est comme comme une grosse boîte à lettres qu'on peut ouvrir. Il y a une petite clé sur le dessus et on recharge, on vient mettre les protections.
Voilà, donc on ne manipule pas les produits. Le côté hygiénique est complètement préservé. C'est conditionné en plus par un ESAT, un atelier protégé de l'Association des paralysés de France, qui conditionne tous ces produits. Et donc, quand la recharge est vide, on l'enlève. C'est aussi du carton PEFC, FSC biodégradable. On en reglisse une autre. C'est aussi simple pour le personnel que de changer le rouleau de papier toilette en fait dans les universités, les collèges et les lycées.
Fabrice Marcella, notre coach.
Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est aujourd'hui, vous avez combien de demandes de votre boîte et combien ça coûte d'en avoir une. J'imagine qu'il y a un budget à prévoir pour la maintenir, en tout cas pour la remplir. Enfin, comment ça fonctionne tout ça concrètement?
Alors concrètement, distributeur...
Parce que c'est pas forcément gratuit pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui paye.
Oui, au final, il y en a un qui paye. Ouais.
Voilà. Le fonctionnement est très simple. C'est une location ou un achat du distributeur lui-même. Et après, c'est du consommable. Il faut imaginer ça. C'est le Nespresso, des tampons et des serviettes, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a la machine et après, on a du consommable. On rachète du consommable. Pour avoir une idée, en tarif scolaire, c'est-à-dire quand il y a un grand public, les 300 produits, parce qu'il y a 300 produits, j'ai réussi à mettre 300 produits dans 43 cm par 43 cm, les 300 produits sont à 55 euros. Pour une université, pour un collège, pour un lycée.
Et c'est changé tous les combien ?
Alors, ça, c'est eux qui voient. Alors, la consommation, c'est très récent. Hein. On a installé les premiers en septembre. On peut dire qu'il y a déjà 30 établissements, une trentaine d'établissements qui en ont. Ce sont 150 000 jeunes filles ou femmes qui ont accès à des tampons et des serviettes bio sur leur lieu d'études, mais aussi de travail, puisqu'on a déjà des entreprises.
Vous avez la SNCF notamment qui s'est engagée à vos côtés.
Ouais, un poste d'aiguillage.
On va en parler aussi.
On va en parler
nous,
ici à Europe 1, oui, c'est important.
Évidemment. Alors oui, là en fait, on a entre 5 et 10 demandes par jour d'établissements scolaires, mais aussi d'entreprises. Pour l'instant, je n'ai fait aucune prospection pour ces 170...
Ça vient à vous.
Oui. Mais j'étais toute seule jusqu'à il y a encore 2 semaines. Là, je viens d'avoir un premier employé. J'en ai une qui arrive lundi prochain aussi. Donc, c'était que de l'entrant, en fait. Et ça continue.
Et ça continue. Et on va continuer à en parler ensemble dans un instant sur Europe 1. Il est 13h27.
Europe 1.
Restez avec nous. On va s'intéresser à une autre action, le projet Gina. Vous allez découvrir ce que c'est avec nous en direct dans La France Bouge. À tout de suite. Créateur d'entreprise, lancez-vous La France Bouge avec BNP Paribas. Quels sont les acteurs français qui se bougent dans le domaine de la précarité menstruelle? On les met à l'honneur cet après-midi dans La France Bouge et vous pouvez réagir avec le hashtag Europe 1. Ça, c'est pour Twitter. Vous pouvez aussi nous appeler au 39 21, c'est 50 centimes la minute. Et ça, c'est le téléphone, Raphaël.
Beaucoup de choses circulent aujourd'hui, y compris de fausses informations. Par exemple, et nous en parlions sur le choc toxique, la composition des protections. Alors, Gina a vu le jour. Bonjour, Andine Beccaria.
Bonjour.
C'est vous qui dirigeait ce projet. Alors Gina, c'est une entreprise qui a décidé de sourcer au plus près les tampons, les serviettes utilisées par les femmes, mais aussi d'aller plus loin en informant sur ce qu'on appelle la précarité menstruelle et les tabous, le tabou des règles. Je crois qu'au départ, ce sont les cofondatrices de My Little Paris qui ont eu envie de faire changer les choses, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, Gina, du coup, c'est un projet qui est né du groupe My Little Paris, qui est donc un groupe de médias. Et du coup, on parle à 5 millions d'abonnés femmes tous les jours. Et environ en 2018, on s'est rendu compte que dès qu'on sortait un article sur les règles ou tout ce qui avait attrait au corps des femmes, il y avait vraiment des réactions toutes particulières. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment un besoin, en fait, à ce niveau-là.
Particulière parce que...
particulière. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient, beaucoup de réactions de personnes qui nous disaient mais merci beaucoup d'avoir appuyé ce point-là, etc. Du coup, nous, on a fait le pari, on a lancé un sondage auprès de toute cette communauté. On a eu plus de 30 000 réponses, donc à des questions vraiment sur les habitudes de protection, combien de temps durent vos règles, etc. Et qui nous permettaient en fait de mieux comprendre le rapport des femmes à leurs règles et à leur corps. Et là, déjà, ça nous a étonné, notamment le nombre de réponses qu'on a eues, mais aussi toutes les réponses, sachant qu'il y avait parmi elles plus d'une femme sur deux qui considérait encore que les règles étaient sales et que moins on en parlait, mieux c'était. Et en fait, ça nous a fait prendre conscience de l'ampleur du tabou qui existait autour des règles et autour du corps des femmes. Et au-delà de ça, en plus, quand on a creusé, on s'est rendu compte justement de toutes les problèmes en fait, qu'il y avait avec les protections classiques qui étaient présentes sur le marché, donc les produits toxiques, etc. Et du coup, avec Gina, on a voulu prendre le contre-pied de ce tabou et d'apporter une réponse à la fois produit, donc avec des protections hygiéniques en coton 100% bio certifié, et également une réponse pédagogique avec différents leviers dont on peut se parler.
Alors effectivement, vous avez créé ces box hein, oui. dans lesquelles on retrouve justement des tampons, des serviettes. Vous aussi, vous ne faites pas fabriquer en France, puisque manifestement on ne peut pas fabriquer en France. Vous êtes allé en Espagne.
Tout à fait. Du coup, en fait, c'est vraiment ça qui nous a pris pas mal de temps au début, lors du lancement de Gina. Pendant plusieurs mois, enfin, au début, on s'y connaissait vraiment pas. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment par taper usine de tampons bio sur Google. Et là, on a été étonnés. On a eu plusieurs rendez-vous, plusieurs appels, et on s'est rendu compte que ça allait pas être si facile de trouver un partenaire qui avait vraiment la même exigence que nous, à la fois en termes de labellisation bio, de production oui, éco-responsable.
Certificat GOTS obtenu par Ecocert, hydrogène utilisé. Utilisé pour dégraisser le coton et exactement. Les produits ne sont pas blanchis au chlore, ce qui est le
tout
cas aussi pour les produits qu'on trouve dans le distributeur.
Exactement. Et du coup, c'est vraiment au bout de 6 mois qu'on a trouvé ce partenaire en Espagne. Du coup.
Alors, l'Espagne, du coup, la box se fait, ouais. la box se crée exactement. Avec des packs et des packs d'urgence aussi que vous avez mis au mois de septembre, je crois, chez Sephora.
Fait. Exactement. En fait, l'idée d'être chez Sephora, c'était vraiment de mettre les règles sur la table et de désindivisibiliser finalement ce sujet-là, le sujet des règles, et de se dire que la composition de nos crèmes, de tout ce qu'on se met sur la peau, c'est finalement aussi important que la composition de nos tampons et de nos serviettes qu'on va se mettre, enfin qui va être au contact de notre vagin en fait tous les mois. Et pour en fait pour cet objectif-là, on a été chez Sephora, on a rencontré les bonnes personnes qui étaient enchantées du projet, et du coup on a créé ces mini packs pour interpeller sur le sujet.
Avec aussi un kit première règle, c'est important de le dire, parce que là, c'est encore plus compliqué quand on est une jeune fille et qu'on découvre cette période des règles que bien souvent en famille, on n'en parle pas ou peu ou pas assez. Il faut trouver des explications et là, elles y sont.
Exactement. En fait, on a lancé notre kit première règle du coup en septembre dernier. On s'est rendu compte que le moment des premières règles, c'était un moment crucial qui déterminait après toute la manière dont on allait vivre nos règles ensuite. Donc, ça allait être des mots qu'on employait pour définir nos règles, mais aussi les protections qu'on utilise vont être définies à ce moment clé. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait apporter de l'information à ces jeunes filles. On a créé un kit dans lequel il y a à la fois des protections et un livret qui fait 40 pages, qu'on a coécrit avec une gynécologue, dans lequel on va expliquer à la fois anatomiquement vraiment
comment ça marche,
ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là, etc. Et ensuite, on va avoir 3 pages anti-tabou à la fin, à déchirer pour les parents et les copains garçons qui vont aider en fait les jeunes filles à vivre des règles sans tabou.
Alors, je crois qu'Elisabeth a une question, et moi, pendant ce temps, je vais regarder.
Non, mais c'est déjà, moi, ça me fait penser à ma louloute. Hein, ma-louloute.com que nous avions reçu à Europe 1. C'est pareil, c'est un kit de première règle 100% filles comme ils disent, pour nous accompagner dans tout, aussi bien en termes d'information, en termes de comment, quand utiliser les protections. Ma louloute, c'est aussi présent, elles sont aussi présentes dans les infirmeries, dans certaines infirmeries, encore pas partout, dans certains établissements scolaires. Donc tout ça, c'est important. On voit que c'est un sujet dans lequel, un domaine dans lequel on se bouge énormément, et c'est pour ça que je voulais aussi citer ma louloute.
Oui, vous avez raison. Fabrice, notre coach.
Oui, alors encore une fois, je ne suis pas le spécialiste du sujet. Néanmoins, pour préparer cette émission, je suis allé sur votre site internet, et on sent bien votre lien de parenté, en tout cas avec My Little Paris, à la fois dans les box qu'on voit actuellement, mais aussi sur la partie digitale. J'ai adoré la manière dont vous communiquez sur le sujet. Votre site est extrêmement moderne, il donne envie d'en savoir plus. Peut-être une petite remarque, néanmoins, on ne vous trouve pas si simplement que ça, parce que la boîte, c'est Gina, mais il faut taper Hey Gina pour vous retrouver. Donc Hey Gina, c'est heygina.fr pour ceux en tout cas qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir plus. En tout cas, bravo sur la manière de faire.
Merci beaucoup.
On a un chapitre 7 que j'aime bien, les tabous bien relous, hein, effectivement, des tabous vieux comme le monde. Alors, il y en a toute une tartine. Et puis, il y a tout ça ne va pas changer tout seul. C'est important d'apprendre à vivre tes règles. Ne te cache pas pour demander un tampon. Si tu souffres de douleurs menstruelles, dis-le. Si des protections périodiques tombent de ton sac dans la rue ou à l'école, ce n'est pas grave. Inutile d'avoir honte.
Oui, parce que souvent, on les cachait.
Oui. Si quelqu'un te demande si tu as tes règles, c'est à toi de choisir ce que tu réponds.
Exactement. C'est vraiment cette volonté en fait de donner toutes les informations aux jeunes filles pour qu'ensuite elles puissent choisir la manière dont elles vont ensuite vivre leurs règles, que ce soit de manière assez intime, comme certaines personnes peuvent le vivre, ou alors une volonté plus de mettre les règles sur la table et d'en parler. Enfin, après, ce sera vraiment libre à elles, mais on veut juste qu'elles aient toutes les informations qu'elles ne pourraient pas avoir ailleurs.
Vous devriez aussi aller voir les colonies de vacances, parce qu'il arrive souvent des premières règles en pleine colonie de vacances. Et pour les animateurs, c'est tout un programme.
Exactement. C'est prévu.
Alors, en fait, pour préparer ça, on a déjà organisé un mois de conférences en septembre dernier.
Oui.
Dans lequel on accueillait du coup des jeunes filles et des papas. Du coup, un mois dédié aux premières règles. Donc, on a notamment un cours iconique qui s'appelle le cours d'SVT que vous avez loupé en quatrième. Donc, en clin d'œil à celui que vous avez pu avoir et qui du coup n'était pas très complet. Et on avait des cours pour les jeunes filles. Donc, comme les règles arrivent de plus en plus jeunes, ça commençait à partir de 9 ans, donc qui était donné par une gynécologue. Mmh. Et on avait aussi le cours des papas. Donc ça, c'était vraiment un moment hyper intéressant parce que, notamment parfois, face à cette question, les papas peuvent se sentir assez désemparés. Et du coup, on les informait sur ce qui se passait, sur ce qui pouvait, enfin, quels étaient un peu leur rôle à jouer pour que leurs jeunes filles vivent des règles sans tabou toute leur vie ensuite.
On reste ensemble et on va voir si on a des questions.
13h38.
Europe 1.
39-21 et Twitter, hashtag Europe 1. On vous attend. Venez nous parler précarité menstruelle, de vos problèmes ou de vos solutions. On est ouvert et on est à l'écoute dans La France Bouge. A tout de suite.
Dans La France Bouge, cet après-midi, on parle de précarité menstruelle. Quels sont les acteurs français qui se bougent dans ce domaine? Et on en parle, Raphaël, avec vos invités.
Eh oui, mes invités, Tara Euzé, présidente et fondatrice de Règles élémentaires, première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Ondine Beccaria, chef de projet Gina, entreprise qui veut décomplexer les règles et la marque de tampons et serviettes en coton bio qui va avec. Et puis Gaëlle Le Noën, créatrice de la start-up Marguerite et compagnie, qui a breveté un distributeur de protections hygiéniques gratuites et bio. Notre coach aujourd'hui, c'est Fabrice Marcella qui dirige le village Baïssé à Paris. À mes côtés, bien sûr, Elisabeth Assayag. On parlait du tabou des règles. Vous sentez que les choses sont en train de changer, notamment avec tout ce qui est en train de se faire, le rapport parlementaire, on va en dire un mot dans un instant, et puis des initiatives du gouvernement. Vous avez le sentiment que ça y est, ça bouge enfin?
Clairement, en tout cas, je parle pour Règles élémentaires, mais nous, ça fait 4 ans et demi qu'on existe. On a longtemps prêché dans le désert avec des individus, des particuliers qui nous ont suivis, nous ont rejoints, des étudiants, des collégiens, des collégiennes. Mais il a fallu plus de 3 ans pour que le gouvernement et les politiques s'emparent de la question. C'est chose faite et c'est très bien, on s'en réjouit.
Oui, effectivement, Elisabeth, le gouvernement va distribuer des protections hygiéniques, c'est ce qu'il compte faire, en tout cas, c'est annoncé, c'est dit.
Eh bien, cette mesure doit être lancée là maintenant, cette année, par le gouvernement à titre expérimental. C'est ce qu'a annoncé le cabinet de Marlène Schiappa en s'appuyant sur 2 rapports parlementaires, une expérimentation dans plusieurs lieux collectifs. Donc l'installation de distributeurs de protection dans les lieux publics, comme dans les écoles, dans les administrations, et auxquels les femmes sans domicile pourraient avoir accès grâce à des cartes prépayées. C'est ce qui est préconisé. Il faudrait voir ça un peu plus dans le détail. Des informations aussi sur l'utilisation de certaines protections pour expliquer les dangers, notamment sur le choc toxique. Moi, j'ai vu dans votre distributeur, Gaëlle, qu'il y avait justement des recommandations bien précises sur comment utiliser, se changer toutes les 4 à 6 heures. Tout est bien expliqué.
Voilà, hein. Toutes ces explications d'habitude sont dans un petit manuel en 36 langues au fin fond de la boîte. On ne lit jamais. Et là, pour moi, c'était important, vu que c'est aussi dans des écoles où il y a besoin de beaucoup d'informations, de le mettre très clairement sur un des côtés.
Très clair.
Pensez-y. Voilà, lavez-vous les mains avant, après, effectivement, changez-les. Le syndrome du choc toxique, on va changer un tout petit peu, on va rajouter vraiment quelque chose sur les symptômes aussi du SCT pour pouvoir être alerté, en fait, ou même qu'une copine puisse alerter une autre en disant « Tu sais, c'est pas normal, j'ai lu ça sur le distributeur, c'est peut-être quelque chose... »
Oui, rappelons quand même que ça reste rare et ce sont des cas très particuliers. Ouais. C'est vrai que ça a déclenché tout un mouvement chez les jeunes femmes, notamment.
Il faut déjà que la femme soit porteuse d'une bactérie.
Voilà
c'est important. Ouais. Donc heureusement, ça ne concerne pas tout le monde.
Moi, je voudrais qu'on regarde un petit peu devant. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous croyez qu'on peut demain, puisque je suis très Made in France, je sais que votre distributeur, il est fabriqué en France, à côté de chez vous, en Bretagne, mais quand est-ce qu'on va pouvoir faire des tampons ici ou des serviettes ici en France? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une autre matière que le coton qu'on pourrait imaginer?
Oui, il y a beaucoup de matières. Il y a déjà des recherches qui sont en cours. Pour l'instant, c'est très 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 confidentiel. Mais il y a 3-4 matières possibles, autres matières possibles. Le tout, c'est que ça demande énormément de R&D, donc ça va mettre du temps.
Dans les ateliers Gina, vous travaillez là-dessus?
Oui, tout à fait. Oui, on travaille vraiment main dans la main avec notre producteur pour justement en savoir plus justement sur ces nouvelles opportunités pour que ce soit beaucoup plus local. Oui.
Et si je peux ajouter juste un point, en France aujourd'hui, on a une explosion des marques de culottes menstruelles made in France.
On en a reçu ici, c'est très chouette.
Et voilà, il n'y a pas que le jetable, il y a aussi le réutilisable. Et là, pour le coup, on a une filière qui a mis du temps à prendre. Ça existait depuis 2015 aux États-Unis. Il a fallu attendre 2018 pour voir un peu les premières en France. Mais là, on a des dizaines de marques. Il y en a des nouvelles tous les jours.
Il y en a des nouvelles, effectivement. On en a reçu quelques-unes ici dans la France Bouge et la France Bouge Academy. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, notamment quand on va dans les allées du salon du Made in France, qu'il y en a de plus en plus. Fabrice?
Oui, Tara, Ondine, quels sont les liens qui unissent Règles élémentaires avec Gina? Enfin, j'ai vu que sur votre site internet, notamment sur le site de Gina, vous parliez de règles élémentaires. Quels sont les liens qui vous unissent concrètement?
Tout à fait. Donc, il y a un lien entre Gina et l'association Règles élémentaires. Donc, déjà, qui est purement matériel, c'est-à-dire qu'on va reverser 1% de notre chiffre d'affaires sous forme de dons à l'association Règles élémentaires, qui du coup va directement les reverser ensuite à des associations qui vont les donner à des femmes mal logées, à des SDF, etc. Et au-delà de ça, nous, on a participé à plusieurs collectes en physique avec Règles élémentaires. Enfin, vraiment, on a cette mission de désindivisibiliser les règles. Donc ça passe par cet aspect concret et ça passe également par la mission pédagogique de Gina. Via nos différents leviers, via nos cycles de conférences, on parle des règles, on parle de la précarité menstruelle. On a souvent invité Tara à des tables rondes. Donc c'est communiquer et donner.
Tout à fait. Hein. Règles élémentaires et Gina partagent cette volonté de briser le tabou des règles avec Marguerite, avec plein d'autres acteurs aujourd'hui. Et on a eu la chance d'être associés dès le début par le groupe My Little Paris aux réflexions sur le lancement du produit. Et aujourd'hui, on bénéficie aussi d'une chouette visibilité grâce à Gina. Et dans chacune des boîtes, il y a un petit dépliant qui présente l'association. Donc c'est très chouette. On en est ravis.
Et on n'a pas parlé des cups, mais j'insiste parce qu'on en avait parlé lors d'une précédente émission. Les cups, c'est important aussi parce qu'il y a énormément de public, je pense notamment aux personnes qui sont en détention, qui fabriquent des cups avec des bouteilles en plastique, et ça c'est extrêmement dangereux, donc il faut absolument lutter. Je voudrais qu'on termine avec une pétition parce qu'elle est importante, cette pétition, Elisabeth.
Oui, c'est une pétition que vous pouvez retrouver sur change.org. Déjà 50 775 à l'heure où nous parlons signatures. Pourquoi? Parce que cette pétition a pour but à ce que les protections soient remboursées complètement, les protections périodiques pour les personnes précaires. Les personnes précaires, c'est-à-dire les personnes bénéficiaires de la CMU qui n'ont qu'environ 500 euros par mois pour vivre ou moins. Et il est important que ces protections soient disponibles dans des établissements scolaires ou dans des entreprises. C'est un peu pareil que le papier toilette. Hein. C'est-à-dire que
exactement.
Vous disiez tout à l'heure, Gaëlle, c'est-à-dire qu'il faut considérer ça comme du papier toilette. Il faut qu'il y en ait partout et gratuitement.
Merci à toutes les trois d'être venues nous rejoindre aujourd'hui sur Europe 1. Il est
13h47.
Europe 1.
Et on va rester ensemble, on va s'intéresser à une maison, la maison Quentin, et à une femme surtout, Marianne Quentin, fromager, affineur. Son père l'était avant elle, depuis 1950. Elle a ouvert sa boutique en 82. Elle sera avec nous, c'est l'entreprise qui va bien.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien.
Oui, et cette entreprise, c'est la Maison Quentin, la vôtre. Marianne Quentin, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir. Vous êtes un des grands noms du secteur. Et c'est normal quand on sait que vous-même, vous dites « je suis née dans un camembert ».
Oui, écoutez, bon, c'est pas exact, bien évidemment.
Non, mais, moi, je connaissais l'histoire du chou et des roses.
Oui, mais voilà, camembert. Non, c'est parce que, en fait, si vous voulez, je suis née en avril 50 et mes parents ont ouvert en septembre 50. Donc voilà, c'est un petit raccourci.
Oui, un petit raccourci parce que votre père était effectivement dans le fromage. 1950, c'est la date de création de sa fromagerie.
Oui, alors papa n'était pas du tout dans le fromage, mais il s'est passionné pour cette nourriture parce qu'il était originaire de l'Île-Dieu. Et il était marin-pêcheur, il est tombé dans un bateau. Il a fait 7 ans dans un plâtre fermé. Et quand on a ouvert le plâtre, il y avait 17 cm de différence à une jambe.
Donc reconversion obligatoire.
Reconversion obligatoire. Donc on avait une tante qui était à Paris et ils lui ont dit « mais pourquoi tu ne prends pas une petite... » Il y avait des petites épiceries, vous savez, où ils vendaient du fromage. Et il n'y avait qu'Androuet à l'époque. Et papa s'est pris de passion pour cette nourriture qu'il ne connaissait pas. Et il a dit « j'enlève tout, je ne fais que du fromage ». Et voilà comment a commencé l'histoire.
Alors vous, vous n'aviez pas du tout l'intention de prendre la suite ni de devenir commerçante. Et puis quand même, hein, parce qu'on vous demandait toujours un petit coup de main, puis vous refusiez.
Ah bah, je ne pouvais pas refuser.
Vous auriez aimé refuser.
Non, quand j'étais petite, ça c'était génial, parce qu'on m'avait fait une petite blouse, un petit tablier, j'adorais ça. Mais vers l'âge de 16, 15, où on a envie de faire autre chose, mes parents me demandaient de travailler. Et bon, on le faisait parce qu'on ne pouvait pas refuser. Mais en fait, voilà. Alors je suis retombée dans le pot.
Vous êtes retombée dans le pot. Et à votre mariage, vous vous dites, je vais avoir ma fromagerie à moi.
Oui, avec mon mari. Parce que quand même, bon, c'est Marianne Quentin. Parce que papa, on a pris le nom de Quentin. Parce que c'était connu. Mais enfin, il y a mon mari qui m'a toujours secondée. Et, ou même devancée. Et on a décidé d'ouvrir notre fromagerie, oui.
Alors des femmes, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait évidemment la mère Richard à Lyon.
Hein. Et puis c'est tout. Mais les femmes étaient très présentes dans les magasins. Mais en fait, on les mettait toujours au travail, à l'arrière, à la caisse. Et c'était les hommes qui sortaient, qui allaient partout, même au salon de l'agriculture, on voyait... Hein, comme partout.
Hein. Et comment est-ce qu'on fait quand on est une femme comme vous pour devenir fromager affineur et pouvoir nous présenter un plateau tel que celui qu'on voit
pas
si on est
quel fromage, hein.
Si on Merci. Est sur Europe1.fr.
Mais si vous voulez, on se pose pas trop de questions. Moi, j'ai toujours agi pas comme si je n'avais pas de sexe. Je suis vraiment une femme, mais mon père m'a toujours élevée. Comment est-ce que je
C'est
peux m'exprimer
différence.
Oui, voilà, il ne faisait aucune différence. J'étais une fille, mais en fait, j'aurais pu être un garçon, voilà. Donc, il m'emmenait partout. Et peut-être que ça m'a donné... parce qu'ils n'ont pas été tendres au départ avec moi, hein, les messieurs. Bon, mais maintenant, il n'y a plus de problème. On s'est dit, la petite Quentin...
La petite Quentin est devenue grande. Hein. Dites-moi, à l'époque, dans les années 80... Il y avait un véritable commerce du fromage. On connaissait les jours où il allait y avoir une grosse affluence. Oui. Ça a changé, ça, aujourd'hui ?
Oui, le commerce a beaucoup changé. D'abord, vous savez, les événements, on ne va pas revenir sur tous les événements, mais ça a changé depuis 4-5 ans, en fait. Et puis, bon, les gilets jaunes, les grèves, tout a changé. Je pense que les Parisiens, à un moment, les week-ends, ceux qui peuvent partir, ils en ont tellement ras-le-bol qui partent le week-end. Donc on ne peut pas dire maintenant le samedi, ça va être un jour magnifique, le dimanche, magnifique. Maintenant, il faut s'adapter. Donc on fait avec, ouais, hein, on s'adapte.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le progrès, c'est bien. Ça a aussi quelques...
Alors si je remonte à quand j'étais petite, bien évidemment que le progrès, c'est bien. Parce que ne serait-ce que pour les systèmes de réfrigération. Ouais. La traçabilité aussi, ça je trouve que c'est très bien. Mais trop de mesures d'hygiène tuent l'hygiène aussi. Parce que...
Les normes tuent les normes.
Oui, en fait, oui. Parce que quand même, on a une personne et demie en cave. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Qui déballe, qui affine, mais qui passe son temps aussi à répertorier les lots, d'où ça vient, avec des petites étiquettes partout. Alors c'est très très important, mais à un moment...
On oublie que c'est un fromage, que c'est un produit artisanal, que c'est quelque chose dont il faut prendre soin.
Et moi j'ai beaucoup de respect pour les producteurs, parce que sans eux, on ne serait pas là. Et pour les vaches. Parce qu'en fait, pour les fermiers, parce que tout ce qu'ils leur donnent à manger, ça se retrouve dans le fromage. Qu'est-ce que c'est le fromage? C'est une conserve de lait.
Hein, bien sûr. Comment est-ce que vous avez fait pour vous imposer aussi? Parce que ceux qui ne vous connaissent pas en dehors de Paris, on vous retrouve dans les Monoprix. C'est aussi, voilà, ce sont les fromages de Marianne Quentin.
Eh bien, alors ça, le partenariat remonte à 2007. Ça a été un tournant quand même. Moi, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, c'est quand même une grosse machine. Et petit à petit, on a démarré. Moi, je voulais pas beaucoup de produits, pas beaucoup de magasins. Et il s'avère que c'est un bon partenariat. Monoprix, c'est des commerces de proximité.
Vous êtes hyper visible.
Oui, je suis bien visible, mais je me bats pour ça aussi. Et puis d'autre part, pour moi, ça nous a fait du bien. Parce qu'on travaille avec des jeunes. Alors ça, ça booste. Et ça, c'est important. Hein.
Que dit notre coach de cette aventure?
Alors moi, je suis un passionné d'histoire d'entreprise et c'est génial avec une entreprise qui a déjà plusieurs années, c'est que ça nous permet de comprendre comment l'entreprise a été créée. Je suis toujours un passionné des mythes fondateurs, en fait. Qu'est-ce qui fait que l'idée arrive et que l'entreprise se crée? Donc merci pour votre témoignage. Ma question porte plus sur vos ambitions de développement. J'ai compris que vous cherchiez aussi à aller à l'international, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est toujours vrai ou pas. Et si oui, dans quel pays? Et que proposez-vous dans ces pays-là? Est-ce que ce sont des fromages français ou des fromages locaux?
Alors, on a eu un partenariat avec le Japon. Ça a été un peu compliqué parce que vous savez, je pense qu'on était un peu en avance quand on a eu ce partenariat. Les Japonais, ils mangent que des petites portions. Alors, on nous coupait le camembert en 10. Et d'autre part, ils n'ont aucun complexe sur les marges. Donc, on retrouvait nos fromages
à des prix exorbitants.
Mais ça a duré énormément de temps. Et puis à un moment, on a dit stop, on perdait de l'argent, c'était pas possible. Alors moi, à l'international, je suis ouvert à tous les pays. Mais il faut savoir que c'est très très compliqué quand on vend du fromage au lait cru. Donc tous les fromages ne passent pas certaines frontières. Hein, ne serait-ce que les États-Unis, il faut des fromages de plus de 60 jours. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est plus du protectionnisme qu'autre chose, hein, à mon avis.
Il y a une devise chez Marianne Quentin. C'est laquelle ?
Chez Quentin, tout est bien, non?
Pas de petits clients?
Ah oui, ça c'est très important. Bon, moi j'estime qu'il n'y a pas de petits clients, il n'y a que des clients. Moi j'ai quelquefois des gardiennes d'immeubles ou alors une petite dame âgée qui vient me chercher un petit bout de fromage. Ben, je trouve qu'il doit avoir les mêmes égards. D'ailleurs, je discute beaucoup, hein, vous pouvez le voir, vous pouvez l'entendre plus exactement, avec mes clients. Et je trouve qu'un client, quel qu'il soit, il est important.
Merci beaucoup pour ce joli témoignage et cette belle histoire, Marianne Quentin, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour l'entreprise qui va bien. Merci à Fabrice, Marcella qui était notre coach, Elisabeth, Céline. À demain.